Bonjour à tous, ceux que j'ai pas vus. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous partager ce que je pense que le Seigneur a mis sur mon cœur, en tout cas, et ce qui a été confirmé par plusieurs choses. Et je vais commencer par revenir sur une prédication, ce qui, quand je parlais de confirmation, je ne sais pas si ça s'était mis en route. Voilà, une prédication de Guy Georges quand il est venu. Alors je ne sais plus, c'était il y a 2-3 semaines. Et au détour d'une, merci Yannette. Et au détour de sa prédication, il a dit une phrase qui nous a fait tous rire, comme beaucoup de phrases de Guy quand il prêche, mais qui était lourde de sens, et moi ça m'a interpellé. Alors je ne sais plus exactement comment c'était formulé, il s'adressait à papa et il disait « Bon, de toute façon Bruno, je pense que c'est pas ici, on n'a pas une église ici de chrétiens qui se plaignent ou découragés. » Et moi ça fait tilt dans ma tête parce que je préparais un petit peu, j'avais la date, cette date du jour et cette prédication préparée, et j'avais vraiment le mot découragement dans ma tête, et j'avais vraiment envie de vous parler du découragement, et pour moi ça m'a marqué. Je me suis posé la question après que Guy ait dit ça, et j'ai dit c'est vrai. Si on devait vous poser la question aujourd'hui, qui n'a jamais été découragé dans sa vie? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui n'ont jamais été découragés ici dans leur vie? Ça va, j'ai pris un sujet qui vous parle. Merci Seigneur. Bon, c'est mon cas aussi. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, que vous ayez été découragé, que vous êtes peut-être même aujourd'hui découragé dans votre vie, ou on n'est jamais à l'abri, qu'un jour vous soyez amené à vivre une situation qui vous décourage, Dieu veut dire avec vous stop au découragement, et le plus vite possible. En tout cas, on le verra après sur différents exemples, que même des grands hommes de Dieu ont vécu le découragement et que Dieu avait un seul désir au fond de son cœur, c'est que ça cesse. Amen. Alors, je vais passer... Voilà mon titre, donc stop au découragement. J'ai mis une petite phrase en dessous. Malgré les difficultés de la vie et les moments sans réponse, Dieu veut nous redonner du courage. Amen. Alors, en cherchant un petit peu, commençant un peu sur le découragement, j'ai eu un réflexe, peut-être pas bon, j'ai pas cherché dans ma Bible tout de suite. Non, j'ai tapé découragement sur Google. Et ce qui était rigolo, c'est que dans les premières images qui sont venues, pourtant, Google n'est pas un site chrétien à la base, je pense pas en tout cas, il y avait cette photo qui revenait, et je trouvais qu'il illustrait bien. C'était marrant que ça apparaissait dans les 10 premières photos quand on tape découragement sur Google. C'est Dieu qui parle, qui dit à ce montagnard, hein, lâche tout et fais confiance en Dieu, et lui qui répond, il n'y a vraiment personne d'autre pour m'aider. Je trouvais ça intéressant. C'est vrai que dans certaines situations de découragement, on a des fois envie de s'en sortir par nous-mêmes. Mais Dieu veut qu'on s'en sorte avec lui, pardon. Alors, après, j'ai cherché un peu plus loin et je me suis rendu compte que le découragement, c'était avant tout un des plus grands mal de notre société. Je suis tombé notamment sur un chiffre qui dit que 44% des 18-24 ans, c'est récent ça, hein, se disent découragés à l'idée même d'envisager l'avenir. Avant même de vivre leur avenir, ils sont déjà découragés. Ça nous place d'ailleurs en France, hein, dans le dernier, plus bas du classement européen. Et je me suis posé la question, je dis, si on faisait un questionnaire similaire dans l'Église, est-ce qu'on aurait des chiffres aussi élevés? Est-ce que vous-même, vous êtes déjà découragé à l'idée de penser à l'avenir? Est-ce que vous êtes découragé ou est-ce que voilà, vous avez du mal à imaginer cela? Alors, j'ai envie de dire, je pense que peut-être que oui, que les chiffres seraient élevés, mais le découragement n'est pas une fatalité. Je pense que Dieu voudrait vraiment qu'on s'en sorte, comme je disais tout à l'heure, pour plusieurs raisons. Parce que vous avez connu certainement le découragement, et peut-être qu'autour de vous, vous avez vu des gens découragés, et vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Le découragement, ça peut avoir des conséquences graves. On peut même venir à totalement dépressif. Et puis surtout pour un chrétien découragé, c'est malheureusement un chrétien, et on le verra après dans les exemples, un chrétien qui s'éloigne de Dieu, qui peut s'éloigner de Dieu. Et c'est là le plus grand danger. Alors, j'ai commencé par prendre ensuite mon dictionnaire, et puis j'ai regardé, je vais aller regarder dans le Larousse qui disent découragement. Et il y avait cette définition qui ressortait, c'était que le découragement est un sentiment humain, j'ai mis en italique exprès, courant, c'était marrant qu'ils mettent ça, semblable à une perte de courage, bon là ils ne se sont pas vraiment mouillés, hein, suite à un affaiblissement de morale. Et il y avait cette phrase un peu plus loin qui disait que le découragement persistant entraîne de la fatigue et peut mener à la dépression. Ça c'est pour revenir un peu aux conséquences du découragement que je vous donnais juste avant. Alors déjà, en lisant cette définition, j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que le découragement, c'est un sentiment humain. Donc si vous avez vécu ou si vous êtes découragé, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas bizarre, c'est normal. Tout être humain peut vivre le découragement. Mais derrière humain, nous chrétiens, ce qu'on voit, c'est derrière le côté homme charnel, on voit péché peut-être. Et bien, j'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous. Être découragé, ce n'est pas péché. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le découragement que vous êtes un homme pécheur. C'est les conséquences, c'est ce que vous allez faire de ce découragement qui peut vous pousser dans le péché. Je m'explique. Dieu, s'il vous voit découragé, comme je vous l'ai dit, on le verra, il veut vous en sortir. Par contre, il y a quelqu'un, il y a Dieu, mais il y a aussi Satan. Et Satan, lui, veut utiliser votre découragement pour vous faire tomber dans le péché. Et c'est bien là qu'il faut voir le petit point important. Le but aujourd'hui ensemble, ça va être de découvrir, de voir ensemble comment sortir du découragement pour éviter de tomber dans le péché. Amen. Alors, j'ai pris donc deux exemples qui vont nous permettre de voir un peu quelles attitudes avoir face au découragement. Ces exemples, donc je l'ai pris, deux exemples bibliques. Alors, c'était difficile pour moi de prendre deux exemples parce que on sait très bien que chaque cas de découragement est particulier. J'ai jamais fait un travail pastoral, mais peut-être que papa pourra confirmer. C'est vrai que derrière chaque découragement, il y a une situation particulière qui vous est propre. Mais j'ai quand même essayé de trouver deux exemples et on verra à travers ces deux exemples, il y a quand même des points communs. Il y a toujours des sources ou des façons de réagir qui sont communes et aussi une façon de Dieu surtout d'agir à chaque fois qui est commune et qui va nous permettre de donner des petits déclics puisque le but à la fin, c'est que vous ressortiez un peu comme vous sortez du médecin avec une petite ordonnance et trois remèdes pour vous aider à sortir du découragement. Amen. Alors, premier exemple que j'ai pris, c'est un premier exemple de découragement lié ou face aux difficultés et échecs de la vie. Et j'ai pris 1 roi 19 avec Élie. Et de toute façon, c'est dans ma Bible, c'est noté comme ça, peut-être pour tout le monde, mais le titre de ce chapitre, c'est « Élie découragé ». Donc on est vraiment bien dedans. Alors avant de lire ensemble celui-là, peut-être pour vous, tout le monde ne le sait peut-être pas, et puis je trouve que c'est toujours bien de resituer le contexte, on va voir qui était Élie. Donc Élie, c'est un prophète, c'est l'un des plus grands de l'Ancien Testament. C'est un homme qui se tient devant Dieu, qui le sert avec une entière fidélité dans un contexte religieux à l'époque qui était particulièrement difficile. Disons que c'était un peu le dernier des Mohicans, si ça peut vous parler comme ça. Élie est cité même comme un modèle de la foi dans le Nouveau Testament, pour vous dire qu'il a marqué un peu cette génération-là, à l'époque en tout cas. Le contexte de l'histoire, eh bien, il faut savoir qu'avant 1 roi 19, un chapitre plus tôt, Élie s'est retrouvé sur le mont Carmel et il a lancé un défi à 450 prophètes, aux 450 prophètes de Baal. Alors je sais qu'il y a déjà eu une prédication, je pense, là-dessus. Enfin, moi, quand je suis retombé là-dessus, je me suis dit ça, j'ai déjà entendu. La question c'était, entre guillemets, je résume, hein, qui est celui, parmi tous les prophètes, dont le Dieu fera revenir la pluie alors qu'à l'époque ils étaient dans une situation de grande sécheresse. Donc Élie confond tous les prophètes et il l'emporte et il prouve ainsi que c'est l'Éternel, le vrai Dieu. Les autres prophètes décèdent et présent également sur cette scène, le roi Achab, qui lui a vu cette victoire, donc cette prière victorieuse d'Élie, il le partage à sa reine Jézabel, qui elle ne semble ni impressionnée ni convaincue par cela. Au contraire, elle, ce qu'elle retient, c'est la mort des autres prophètes et elle dit, Élie, je veux qu'il ait la même sentence, entre guillemets, qu'il décède aussi. Alors je vais lire avec vous l'histoire de 1 roi 19. Si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre. C'est toujours intéressant de le suivre. Si vous voulez écouter, je ne vous en voudrais pas. J'aime bien lire des histoires. Puis que j'ai une fille, c'est comme ça. J'essaye de mettre un peu de... Alors, on y va. Donc, 1 roi 19. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de Bibles. Tout le monde veut m'écouter. Le roi Achab raconte à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie a fait et comment il a fait pour tuer... Il a fait tuer tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoie un messager dire à Élie, « Demain, à cette heure-ci, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous ces prophètes, sinon que les dieux me punissent très sévèrement. » Élie a peur, et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il arrive à Beersheba, dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit. Puis il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir, et il dit, « Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Ensuite, il se couche sous un petit arbre et s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarde, près de sa tête, il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Il mange, il boit et se couche à nouveau. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher et lui dit « Lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. » Élie se lève, il mange et boit, cette nourriture lui donne des forces. Alors il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé au mont Horeb, Élie entre dans une grotte et il passe la nuit à cet endroit. Le Seigneur lui adresse sa parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répond « Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant, mais les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes, moi seul, je suis resté et ils veulent prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit « Sors d'ici, va dans la montagne, attends de ma présence, moi le Seigneur je vais passer. » Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, il y eut un vent violent. Puis la montagne qui fend la montagne et casse les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un bruit d'un souffle léger. Et quand il y l'entend, il se cache le visage avec son vêtement. Il sort et il se tient à l'entrée de la grotte. Alors il entend une voix qui dit « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Je vais m'arrêter là. Ensuite, je vais juste vous résumer. Donc le Seigneur guide Élie, lui dit ce qu'il attend de lui et ce qui va lui permettre notamment de sortir un peu de cette situation où il ne fait plus rien, où il est totalement paralysé et donc aussi de son découragement. Alors, il y a quelques petites choses qu'on peut retenir ici dans l'attitude d'Élie. Donc, on voit bien Élie découragé. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc de cette attitude ? Ma première chose, on imagine tous, on a décrété sa mise à mort, premier réflexe qu'il a, enfin premier sentiment qu'il a, il a peur. D'accord ? C'est la première chose qui est dit, et même on peut y comprendre d'ailleurs sa peur en se disant, bon, il s'est dit qu'avec ce qu'il a vécu juste avant, il aurait un peu de crédit, j'imagine, et qu'on dirait, bon, c'est toi le prophète du Dieu vivant. Non, il pensait qu'il aurait eu gain de cause avec ses dernières scènes, mais au contraire, il fuit pour sauver sa peau. Deuxième chose. Mais Dieu, dans son amour, on le voit après, vient à son secours en s'occupant, un, de ses besoins vitaux, il lui donne à manger même, et deux, en préservant surtout son repos. Après cela, il lui révèle son plan qui le sortira de l'impasse. Que retenir pour notre vie dans cette situation d'Élie ? Alors j'ai retenu plusieurs choses, j'ai bien aimé cette histoire. J'ai retenu cinq choses. Première chose, côté un peu déculpabilisateur, j'ai envie de dire, c'est Élie qui est découragé. Élie, attention, grand prophète, etc. Donc si tu as vécu un découragement, si tu es découragé dans ta vie, sache que même les grands hommes de Dieu ont vécu ça. Ça doit vous peut-être donner un côté déculpabilisateur. C'est la première chose que j'ai notée. Deuxième chose, l'importance du repos. Je ne sais pas si vous avez peut-être noté, j'ai peut-être lu un peu rapidement, mais trois fois il est mentionné que Élie s'est reposé. C'est d'ailleurs la première chose que Dieu lui permet finalement de faire, se reposer. Et je pense qu'on reviendra après, c'est un des points capitaux, pas grave, vous m'avez compris, lorsque vous êtes découragé. Je pense que avant tout, la première chose à faire, c'est rechercher le repos, son repos, se reposer sur Dieu. Et non seulement il se repose, mais aussi il se nourrit. Et la nourriture du chrétien, vous la connaissez, c'est Dominique, la parole, important le repos et se reposer aussi sur la parole de Dieu. Amen. Troisième point, quand on est découragé, on a envie souvent de fuir et même des fois de fuir Dieu. Vous avez remarqué, c'est un peu le cas ici d'Élie, il fuit, mais Dieu a toujours un œil sur lui. Et je trouve que c'était un point vraiment important. Quatrième point, on en parlait d'ailleurs avec ma femme, parce que je lui fais un petit clin d'œil parce qu'elle va rigoler. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. C'est un point important parce que souvent quand on est découragé, moi-même dans ma vie, on est dans une société où on a envie que tout soit rapide. On a un problème, on veut que ça soit vite résolu. On veut même qu'Internet aille plus vite que nous. Limite, avant de cliquer sur la page, il faut qu'elle s'ouvre. Et on râle quand ça ne marche pas. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus après. Et ici, Dieu, vous le voyez, il n'a pas agi tout de suite. La situation d'Élie n'a pas été tout de suite. Il n'est pas sorti tout de suite de son découragement. Il est même précisé que Dieu, après le temps de repos, si vous vous souvenez bien dans l'histoire, il lui dit « Lève-toi, tu dois encore marcher 40 jours, 40 nuits. » Imaginez, il est déjà, il a peur. Il sait qu'on a ses trousses, et Dieu lui dit, tu as encore 40 jours et 40 nuits à marcher. Il doit imaginer, au fond de lui, ça a dû bouillonner, il a dû dire, oh là là, encore pendant 40 jours et 40 nuits, on peut imaginer dans sa tête comment il devait être. Dieu, des fois, Je sais que c'est parfois incompréhensible, mais quand on est découragé, on aurait envie que Dieu agisse tout de suite dans notre vie et nous sorte du découragement. Mais il y a un temps, et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, et je pense que ici, il faut aussi accepter, on le verra dans le deuxième exemple, qu'à un moment donné, il y a un temps avant de sortir de ce découragement et que ce temps peut être voulu par Dieu. Pourquoi, vous allez me dire ? Eh bien, c'est le dernier point. Parce qu'ici, il y a un point intéressant sur la fin de l'histoire. Je pense que dans un temps de découragement, Dieu peut aussi l'utiliser pour nous faire découvrir une nouvelle facette de son amour ou de sa personne. Ici, on imagine Élie, on se dit, il a dû tout connaître, il connaît Dieu, c'est un prophète, il est au plus près de lui, il a vécu de grandes choses avant. Il a vécu, enfin, vous imaginez quand même, 450 prophètes, il a prié, c'est lui, c'est fort. Mais non, il n'a pas tout connu. Et je pense que dans ce passage, Élie découvre aussi, peut-être moins le côté du Dieu puissant qui agit puissamment sur une situation, mais aussi le Dieu doux, le Dieu de la douceur. On le voit lors de l'apparition d'Élie déjà, dans l'apparition de Dieu. Quand Élie dort, c'est un ange qui vient lui toucher. Il est juste précisé le toucher, on imagine juste, il n'est pas venu le secouer, le toucher. Et puis aussi dans l'apparition, après quand Dieu dit « va dans la grotte », il est dit qu'il y a un vent violent, mais Dieu n'était pas là. Un tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Le feu, Dieu n'était pas là. Mais il y a eu une brise légère, et là Dieu est apparu. Donc je pense que Dieu aussi voulait montrer à Élie, faire découvrir une nouvelle facette dans cette période de découragement de sa personne, la douceur. Deuxième exemple que j'ai pris, on reviendra donc après, hein, je vous ai dit, j'aurai peut-être un petit peu au médecin, je ne suis pas médecin pour Dieu, mais on va essayer en tout cas de dresser une petite ordonnance pour le découragement, mais je voulais aussi revenir sur ce deuxième exemple, un peu plus connu peut-être, parce qu'on le cite souvent, notamment avec les enfants, et bien, combien de fois j'ai pu en parler de cette histoire-là. Mais deuxième exemple, un découragement lié à une impatience ou une absence de réponse dans notre vie, par rapport à une situation. Et j'ai pris, bien sûr, Abraham et Sarah, dans Genèse 15 à 21, et la lutte contre le temps. Alors, je ne vais pas tout vous lire, parce que Genèse 15 à 21, vous imaginez, on y passerait beaucoup de temps. Mais je vous invite à le relire, même chez vous, peut-être. Donc, je vais plus insister et résumer un peu la situation. Et d'abord, comme pour Élie, voir ensemble qui est Abraham et qui est Sarah. Alors Abraham, il est considéré comme le père de la foi. C'était un nomade et un éleveur de bétail que Dieu appela et l'invita à quitter son pays pour une nouvelle terre avec la promesse, et c'est là que j'aurais dû signer la promesse, d'y avoir une grande descendance. Problème, quand on va avoir une grande descendance, ben ici c'est que Sarah, sa femme, elle est stérile. Donc, difficile d'imaginer d'avoir une grande descendance quand sa femme est stérile. Le contexte de l'histoire, donc Dieu a promis à Abraham et Sarah une descendance, dès Genèse 15, mais voyant qu'avec le temps, elle ne tombe pas enceinte, Sarah se décourage et le couple précipite la promesse de Dieu. Sarah dit en effet à son mari de coucher avec la servante Agar, qui leur donne donc un fils, Ismaël. Ismaël, donc, fils d'Abraham, donc la descendance est là. On ne sait pas avec sa femme, mais... En tout cas, c'est ce que Abraham pensait. Il a alors 86 ans à l'époque. Plus tard, 13 ans plus tard, Dieu intervient dans la vie d'Abraham et lui dit la promesse que je t'ai faite va être réalisée prochainement, précisément, même dans un an, je reviendrai, et la promesse sera réalisée. Abraham s'est dit, mais j'ai un fils déjà. Ah non, la promesse sera réalisée avec ta femme. Et c'est donc dans Genèse 18-10 que je vais lire avec vous, je vais quand même le préciser, cette intervention. Est-ce qu'elle est intéressante ? L'un des visiteurs, donc Genèse 18-10, l'un des visiteurs dit « L'an prochain, je reviendrai vers toi et ta femme Sarah aura un fils. Sarah, elle, est à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et a tout entendu. » Et la suite, je vais plus la cibler sur Sarah, parce que ici, dans le couple Abraham-Sarah, la personne découragée, on peut l'imaginer, c'est avant tout Sarah. Je sais ce que c'est, hein. Pauline est enceinte, donc on a cette chance-là, on va avoir un fils. Mais je sais comment on est, nous les femmes, comment vous êtes, vous les femmes, pardon, par rapport à nous les hommes, quand il y a une histoire d'avoir un enfant. On a eu le coup, ça n'a pas marché le premier mois, et bien grosse panique, découragement qui vient très vite. Donc j'imagine dans cette situation-là, c'est beaucoup Sarah qui a souffert. Surtout que c'est elle qui est finalement, entre guillemets, était stérile, donc elle s'est dit, c'est ma faute. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'attitude de Sarah découragée ? Et bien lors du rappel, lorsque Dieu est revenu pour dire que la promesse, Sarah, il est noté qu'elle a douté, puis qu'elle a rigolé. Elle a ri. On peut imaginer. Pfff, qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Impossible. Puis elle est saisie de la crainte de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi elle est saisie de la crainte de Dieu ? Parce que la personne qui vient, donc le visiteur ici qui dit, donc le messager de Dieu, lui dit « Pourquoi ta femme rit ?» Alors qu'elle était cachée derrière, il est bien précisé. Et là où c'était intéressant, c'est que bien sûr, Dieu est grand. Un an plus tard, Sarah a un enfant. Alors vous lirez l'histoire, hein, si vous voulez vous souvenir. Et au moment où elle a cet enfant, à la réalisation donc de la promesse, elle prend conscience pleinement de la grandeur de Dieu. Bon, on sait ce que c'est, hein, lors d'un accouchement, beaucoup de joie. Et elle fait référence, j'ai noté avec humour, point d'interrogation, à sa réaction précédente. Et c'est là que ça me fait rire, je vais vous lire avec vous, c'est Genèse 21:6. Sarah dit en effet, Dieu m'a fait rire de joie, alors qu'elle riait peut-être pas de joie au moment où le serviteur est revenu, le visiteur est venu, tous ceux qui apprendront la naissance riront avec moi. Alors que retenir pour notre vie sur cette situation et sur le découragement de Sarah ? Quelque chose déjà, un peu comme pour Élie, c'est Abraham et Sarah. Ce sont quand même des grands personnages de la Bible, côté encore déculpabilisateur. Si vous êtes découragé, si vous avez vécu un découragement, sachez-le, d'autres personnes l'ont vécu avant vous, peut-être le vivent même aujourd'hui avant vous, enfin le vivent aujourd'hui, et surtout c'était aussi des grands hommes et femmes de Dieu. Amen. Encore une fois, j'ai envie de dire, le temps de Dieu, pour revenir, ne cherchez pas le fruit avant le mouvement, de récolter le fruit avant le moment venu. Ici, le temps de Dieu n'est pas toujours celui des hommes. La promesse, elle a été réalisée 14 ans après. C'est d'ailleurs ça qui a posé problème dans cette histoire. Ils auraient peut-être voulu que ça arrive un peu plus vite. Bon, il y avait leur âge aussi qui faisait, 86 ans, on voit ici pour Abraham. La peur, en tout cas, mais quand Dieu a un plan, il peut le réaliser. Peut-être pas tout de suite. C'est vrai que c'est difficile, ce qu'on se dit. Mais, et c'est là que ça vient à mon troisième point, quand Dieu promet, surtout, il le fait. Amen. Alors, on va y aller. Je vous l'avais promis que je ferais la petite ordonnance avec vous. Je vais même jouer à l'apprenti médecin. J'ai donc, à travers ces histoires, sorti trois remèdes pour sortir du découragement. Sortir du découragement. Premier remède, si vous êtes découragé, reposez-vous sur Dieu et rechargez les batteries. Je l'ai dit tout à l'heure avec Élie. C'est vrai que c'est important. Si vous avez besoin de faire une pause, faites-le. Vous serez bien plus efficace lorsque vous vous remettrez à l'ouvrage. Demandez-lui simplement, il peut vous donner une énergie nouvelle. Donc, voilà, je fais référence à mon exemple précédent. On va prendre l'exemple d'Élie. Trois fois, il est mentionné qu'Élie s'est reposé. Deux fois, l'ange est venu le réveiller. Et même quand il est arrivé dans la grotte, il y a passé la nuit. Donc, il a dormi. Donc, le repos, très important. Et puis, comme je suis un bon médecin, j'ai mis la petite prescription, un petit verset d'encouragement. Il est dit, c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de connexion qui allait vite. Et je vais aussi vous donner un petit exemple vivant. Alors, c'est facile, c'est un exemple personnel, mais d'une chose que j'ai vécue. Et c'est comme quoi Dieu est bon, parce que quand on prépare des choses comme ça, il nous met aussi à l'épreuve. « Ah oui, tu dis que tu vas reposer vous, vas-y toi-même d'abord. » Non, je ne savais pas. Mais il y a eu le week-end prophétique. On est venu ici, on a eu beaucoup de bénédictions, et aussi bien pour Pauline et moi, et beaucoup d'encouragement, j'ai envie de dire. Et puis, c'est des fois comme ça. De toute façon, même si on est chrétien, on n'est pas à l'abri de tout. Hein. Faut dire ce qui est. Le week-end d'après, la semaine d'après, par contre, qui a suivi, c'était découragement sur découragement. Plein de petites choses à la maison qui faisaient qu'à la fin de la semaine, on se disait « Mais c'est pas possible. Il y a un acharnement. » Et arrivé le vendredi, j'étais en formation et puis c'est ça les pas ce jour-là. J'étais pas bien, au fond de moi je pensais à toutes les petites choses. C'était pas grand-chose, hein. Mais c'était plein de petites choses et puis bon voilà. Et j'étais découragé. Et je suis arrivé 4 heures à la fin de la formation dans ma voiture et puis là, c'était lourd toute la journée. J'ai dit « Seigneur, j'en peux plus, je veux me reposer totalement sur toi. Je repose tout, mon cœur, je mets tout à tes pieds. Et je repose tout sur toi. » J'ai mis la louange dans ma voiture. Je suis rentré, c'était à l'homme, j'avais une demi-heure, j'ai loué le Seigneur. D'ailleurs, les gens qui me dépassaient devaient dire « Celui-là, il est bizarre. Il n'écoute pas les grosses têtes. » Ou alors, parce qu'il chante. Enfin, c'est bizarre. Et je suis arrivé à la maison, bon, ça m'a fait un bien fou. J'arrive à la maison, on récupère Alix, puis je dis « Bon, ben, toujours pas. » Il y avait un de nos problèmes, c'est que du jour au lendemain, le lundi, après le week-end prophétique, quasiment plus d'internet à la maison, plus de télé, plus rien. Et puis quand on appelle « Oh bon, on ne sait pas ce qu'il y a, on va regarder. » Rien du tout, ça traîne. Je dis, punaise, c'est pas possible ça. Et on revient d'aller voir Alix, je dis, j'allume la télé, je dis, tiens, on va regarder au cas où. C'était revenu. Oh, je dis, c'est super, c'est génial. Bon, et je dis, je vais aller quand même voir à quelle heure c'est revenu. On peut le voir sur Internet, on peut voir notre courbe de connexion. Véridique, le petit clin d'œil du Seigneur. Moi, je dis toujours ça avec Pauline, on dit toujours le petit clin d'œil. On a une courbe, donc la courbe était basse, et à 16h00, je me souviens que c'était dans ma voiture quand je suis arrivé, c'était 16h00, la courbe est remontée en flèche. Donc un petit encouragement, quand on se repose sur Dieu, je pense que c'est là aussi où il agit. D'accord ? Et puis aussi, Aldo ne me contredira pas, c'est aussi dans la louange qu'on peut facilement se reposer et reposer tous nos fardeaux sur Dieu. Amen. Alors, deuxième remède, on avance. Si vous êtes découragé, retrouvez confiance en lui et souvenez-vous de ses promesses. Souvenez-vous de ce qu'il vous a promis, ce qu'il a déjà réalisé pour vous dans le passé. Remettez-lui tout cela dans la prière et proclamez-le avec foi. Là, pour ça, ben, je me suis basé sur deux choses, sur les deux histoires. Bien sûr, vous allez me dire peut-être Abraham et Sarah, ils auraient pu se dire, bon, si Dieu promet se tenir à cette promesse, même si c'est dur des fois, bien sûr, avec les années, on peut l'imaginer, on se met à leur place, mais se souvenir un peu de cette promesse. Mais je me suis dit aussi, Élie, on peut revenir, souvenez-vous de ce qu'il a fait. On peut se poser la question, pourquoi Élie ne s'est pas souvenu, dire, ouais, ce qui s'est passé avant, Dieu a été puissant, il agit puissamment. Donc, sur cette situation de mise à mort, il agira aussi puissamment. Pourquoi il ne s'est pas souvenu de ce qu'il avait vécu juste avant ? On ne peut pas savoir. Mais en tout cas, ici, c'est un encouragement. Et peut-être, si tu vis aujourd'hui un découragement, te souvenir des bonnes choses que Dieu a fait et des situations peut-être aussi qu'il a débloquées et te dire qu'il le fera encore. Avec ce petit verset d'encouragement, encore une fois, j'accomplirai pour vous mes bonnes promesses. Jérémie 29, 10. Je pense que ça aussi, c'est des choses auxquelles on peut s'accrocher. Et puis, un exemple vivant, j'en ai un, c'est parce que je sais que ça c'était cité, puis parce que j'ai vécu ça, notre arrivée ici à Betzalel avec papa, maman, avec les Tim et Nathan, il y avait des promesses sur Betzalel. Et je me souviens plusieurs fois, même à la maison ou même papa, il y a des moments, c'est toujours un peu plus difficile, je ne vais pas le cacher, dans l'œuvre ici. Et à chaque fois, papa insister sur le fait, oui, mais il y a eu cette promesse. Dieu a insisté, c'est pas une promesse, mais même plusieurs promesses. Donc je m'attache, je m'accroche parce qu'il y a ces promesses. Amen. Alors qu'on aurait eu peut-être des fois envie peut-être de tout lâcher. Amen. Et troisième remède, si vous êtes découragé, résistez. Tenez bon. Fort de votre nouvelle batterie, repartez en combat. Dieu est avec vous. Vos frères et sœurs en Christ sont également avec vous. La prière et sa parole sont deux armes qui ont déjà fait leur preuve et vous permettront de lutter au mieux ce qui vous tracasse. Accrochez-vous, faites ce qui est bien en dépit de vos sentiments. Pour revenir sur l'exemple précédent, c'est un peu ce qui a fait la différence tous les deux, entre Élie et Sarah, c'est la façon dont ils ont résisté face au découragement. On voit Sarah et Abraham ont précipité, ils ne sont pas tenus longtemps peut-être. Élie un petit peu plus, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a quand même marché 40 jours, 40 nuits derrière. Hein. Donc mais c'est là aussi, je pense, que la plus grande différence se fait, c'est dans notre façon de résister avec Dieu. Il faut résister. Alors, ce verset d'encouragement, Jésus qui dit, avant de monter, Matthieu 28, « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Avec cette assurance, il faut résister parce que Dieu est là. Amen. Alors, je vais prendre un exemple vivant également. Et là, je vais rebondir sur une autre prédication, je pense que c'était il y a deux semaines, ou même sur ce que vous entendez. Résister, c'est bien de le faire, mais résister, c'est plus facile de résister à plusieurs que seul. Face à une situation, comptez aussi sur vos frères et sœurs. Allez dans les groupes de maison. Je le cite particulièrement. Alors moi, c'est rigolo parce que j'ai pas été encore en groupe de maison. Une chose simple, parce que j'ai laissé, c'est vrai qu'on a une fille, j'ai laissé ma femme y aller, c'était l'occasion. Je vais y aller prochainement, hein. Mais j'ai pu voir aussi l'œuvre de Dieu et face à une situation de découragement à travers ma femme. Par rapport à la situation, ce qu'elle a raconté il y a une ou deux semaines, la situation qu'elle a vécue, elle l'a partagée. D'autres ont pris cette situation, ils ont prié avec elle et elle est sortie de ce découragement aussi par rapport à la situation précise. Donc je vous invite vraiment à aller, et si vous êtes découragé, à aller partager. Partagez, reposez-vous aussi sur Dieu, mais aussi partagez aux autres pour que votre situation qui vous décourage puisse être portée par plusieurs. Amen. Eh bien, on va arriver à la conclusion. Je ne sais pas si j'étais bon. Enfin, dans le temps, je parle. Alors, je vais, pour revenir à ma conclusion, j'ai regardé un peu ce que le mot découragement en hébreu, il trouve sa racine dans le mot makah, M-A-C-A-H, qui se traduit aussi, c'est rigolo, par fondre, dissoudre, être liquéfié. Et je ne sais pas si vous avez remarqué au début, bon, je me suis un peu montré, je voulais faire ça discrètement, mais vous l'avez vu. J'ai pris deux verres d'eau ici et j'ai mis un sucre dans le premier. À votre avis, quel est l'état du sucre maintenant ? Totalement dissous. Bon, il y a encore des petits cristaux, hein, mais totalement dissous. Et en réfléchissant, en préparant et en voyant ce mot dissous, je me suis dit, finalement, face au découragement, je pense qu'on est un petit peu comme ce sucre qui est tombé dans l'eau. Si on laisse faire les choses, mieux, on laisse faire les choses, on va être totalement dissous et on va perdre notre solidité en Christ. Tout n'est alors qu'une question de temps. Si, comme ce sucre que j'ai mis ici, nous laissons le découragement nous envahir sans rien dire, avec le temps, nous ne ferons plus qu'un avec lui, avec le découragement. Il nous aura engloutis, le temps aura joué avec nous, et il ne sera pas impossible, mais plus compliqué de recoller les morceaux avant de repartir. Je ne sais pas si... Alors, j'ai fait quelques études de physique, chimie, mais bon, je n'ai pas été très loin. À votre avis, pour récupérer le sucre ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ouais, il faudrait le chauffer, l'eau partirait par évaporation, et il resterait le sucre. Mais de là, récupérer mon sucre, comme ça, bon, c'est un peu plus compliqué. On peut recoller les morceaux, mais c'est un peu plus dur. Mais si nous faisons comme maintenant ce que je vais faire, si nous sommes comme ce sucre, que nous tombons dans le découragement, et que nous, un, soit nous nous reposons sur Dieu, deux, nous nous souvenons de ce qu'il a fait, de ses promesses, et trois, nous résistons, tellement résistons que nous sortons, alors à ce moment-là, nous s'en sortirons presque indemnes pour combattre. Amen. Bon, là, c'est en train de tomber dans mes doigts, mais c'était pas vraiment ce que je voulais. Presque. Je vais le remettre dedans, dans celui, mais voilà. C'est du prof. Hein. Voilà. Donc, ensemble et avec Dieu, disons stop au découragement. Je terminerai sur ce verset. J'aime bien la pensée du jour sur Top Chrétien. Je ne sais pas si vous lisez. Et c'est marrant, c'est tombé cette semaine. Je cherchais justement un petit verset de conclusion. Je dis, tiens, merci Seigneur. Encore une fois, le petit clin d'œil du Seigneur. Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. Ne te laisse pas décourager. Amen. Je vais prier. Ouais. Ah, ouais. Je ne sais pas qui fait le ménage cette semaine. Je vais nettoyer quand même. Parce que quand ça aura séché. Amen. Seigneur, je veux te prier. Et je veux te remercier parce que, tout d'abord, tu es un Dieu bon, puissant, fidèle. Et fidèle aussi, Seigneur, dans les situations les plus difficiles de notre vie. Je pense que, Seigneur, on l'a pu tous le tester et le vivre. Tu es toujours là. Alors, Seigneur, ce matin, j'ai envie de te dire que si mon cœur est découragé, j'ai envie d'en sortir avec toi. Parce que Seigneur, j'ai bien retenu, Seigneur, les remèdes. Alors Seigneur, je veux me reposer sur toi. Je veux me souvenir de ce que tu as fait et je veux résister avec toi. Merci mon Dieu pour ces... que je te remets déjà, Seigneur, les situations de chacun, Seigneur. Que si vraiment, Seigneur, au fond de leur cœur, ils sont découragés, tu puisses... j'espère, Seigneur, que ces paroles ont pu pénétrer dans leur cœur. Et deux, Seigneur, que tu puisses maintenant venir, Seigneur, les toucher à nouveau, leur donner ce repos, leur remettre, Seigneur, à cœur aussi, Seigneur, ce que tu as fait. Que maintenant, Seigneur, face à eux, puissent revoir, Seigneur, les bons moments aussi et les bonnes choses que tu as faites pour eux. Que les promesses puissent ressortir, ressurgir. Et que tu puisses, Seigneur, fort de ces nouvelles forces, Seigneur, nous donner la force de résister.